Bonsoir à tous. Nous allons détailler dans cette édition le nouveau gouvernement Valls, puisque les nominations viennent d'être annoncées. Jean-Marc Ayrault fait son retour, l'ancien Premier ministre de François Hollande prend le portefeuille des affaires étrangères. Nous verrons aussi avec Stéphane Robert l'architecture générale de cette équipe. Et puis, nous tenterons de comprendre pourquoi Fleur Pellerin quitte le ministère de la Culture. Deuxième grand enseignement de ce remaniement, bien sûr, l'arrivée de trois ministres écologistes. D'abord la patronne des Verts, Emmanuelle Cosse. Son parti est d'ailleurs en réunion de crise en ce moment même. Et puis, deux Verts plus compatibles. Qui voulait entrer au gouvernement? Barbara Pompili et Jean-Vincent Placé. Explication avec Christine Moncla. Dans cette édition, nous irons aussi en Syrie, où le Guardian, journal britannique, parle désormais de 500 000 morts. Et puis nous verrons que les physiciens ont découvert des ondes gravitationnelles. 18h20 du Grain à Moudre, avec vous Hervé Gardette.
Faut-il interdire la cigarette? Nous allons poser la question ce soir à Bernard Gasse, Carnot Robinet, Martine Pérez et Albert Hirsch.
À tout à l'heure. Finalement, ce n'est pas un remaniement si cosmétique que cela. Quatre figures importantes quittent le gouvernement, dont Laurent Fabius, on en a beaucoup parlé, qui lâche le Quai d'Orsay pour le Conseil constitutionnel. Trois femmes aussi, Sylvia Pinel au logement, Marie-Lise Lebranchu pour la décentralisation et Fleur Pellerin à la culture, lui emboîte le pas. Quatre sortants donc, et beaucoup d'entrants, dont Jean-Marc Ayrault, on y vient tout de suite, et trois écologistes, je le disais en titre, dont la patronne des Verts, Emmanuelle Cosse. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Tara.
On va décrypter avec vous cette nouvelle équipe qui va travailler autour du Premier ministre Manuel Valls, équipe dans laquelle la parité homme-femme est d'ailleurs parfaitement respectée. Mais d'abord un mot du grand retour de Jean-Marc Ayrault, qui avait été évincé au printemps 2014 et qui revient donc aux affaires étrangères.
Oui, Jean-Marc Ayrault, c'était une rumeur persistante depuis quelques jours qu'il pourrait revenir aux affaires via le Quai d'Orsay. C'est donc désormais confirmé. Les affaires étrangères, c'était le seul poste qu'il pouvait décemment accepter parce que c'est le seul ministère qui dépend directement de l'Élysée et qui n'est pas sous la tutelle de Matignon et donc de Manuel Valls. Manuel Valls, qui, vous l'avez rappelé, avait succédé à Jean-Marc Ayrault en tant que Premier ministre il y a bientôt 2 ans et qui ne s'était pas privé de critiquer la politique de son prédécesseur. Ayrault, ailleurs qu'au Quai d'Orsay, c'était donc exclu. Et il voulait revenir, apparemment, Jean-Marc Ayrault. Il voulait revenir parce qu'il s'ennuyait un peu depuis qu'il n'est plus Premier ministre. Celle qui lui a succédé à Nantes, Johanna Roland, s'en sort très bien et elle n'a aucunement l'intention de lui rendre son fauteuil. Il s'ennuyait aussi à l'Assemblée en tant que député. C'est aussi un homme de poids au Parti Socialiste, un éléphant, comme on qualifie parfois ces apparatchiks indétrônables, et ça Hollande ne pouvait pas l'ignorer. Il a l'avantage également de très bien s'entendre avec le président. C'est un fidèle qui sait rester à sa place. Il ne fera donc pas d'ombre au chef de l'État qui entend garder la main sur les questions internationales. La nomination de Jean-Marc Ayrault avait donc beaucoup d'avantages, peu d'inconvénients.
Alors si on élargit maintenant à l'ensemble du gouvernement, il y a évidemment l'entrée en force des Verts, on va en parler avec Christine Moncla dans un instant. Et puis il y a, je le disais aussi en titre, le départ de Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, qui est donc remplacée.
Oui, remplacée par Audrey Azoulay, ça c'est une vraie surprise. Audrey Azoulay, c'était jusqu'ici la conseillère de François Hollande Culture et Communication à l'Élysée. Alors pour ce qui concerne Fleur Pellerin, elle n'avait pas vraiment démérité, mais n'avait pas vraiment réussi à s'imposer non plus. Elle conservait l'image d'une techno, pas vraiment intéressée par le monde de la culture. L'épisode sur les livres de Patrick Modiano, qu'elle n'avait pas le temps de lire, n'ont pas vraiment aidé. Fleur Pellerin, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas vraiment de réseau au PS. Brillante, oui, mais avec peu de soutien. Et puis, ce qu'il faut considérer là, ça n'est pas tant que François Hollande a voulu se débarrasser de Fleur Pellerin que le fait qu'il a voulu offrir une promotion à sa conseillère à l'Élysée. Car Audrey Azoulay, elle a cet avantage d'être la fille d'André Azoulay, qui lui est l'un des plus influents conseillers du roi du Maroc, Mohamed VI. Les relations entre la France et le Maroc ont longtemps été tendues. Elles se sont très récemment réchauffées. C'est donc un gage supplémentaire. Et puis, il s'agit aussi de mettre quelqu'un à la culture qui a directement l'oreille du président, alors que la situation est quelque peu tendue au sein de l'audiovisuel public. Pour le reste, Jean-Michel Baylet fait son entrée au gouvernement en lieu et place de Sylvia Pinel. Ça, c'est le gage donné aux derniers alliés du PS, le PRG. Vous remarquerez également que tous les grognards du hollandisme restent à leur place. Stéphane Le Foll, Michel Sapin, Ségolène Royal, Jean-Yves Le Drian. Enfin, l'autre vraie nouveauté, c'est le retour des Verts sans les Verts au gouvernement. Mais ça, c'est Christine Moncla qui va nous en parler maintenant.
Bien sûr, Stéphane Robert, merci pour cette transition. Et donc, Emmanuelle Cosse, la patronne des Verts, et reprend donc, c'est presque une ironie de l'histoire, le même portefeuille que Cécile Duflot qui avait claqué la porte en son temps. Bonsoir Christine Moncla.
Bonsoir Tara.
À 41 ans, Emmanuelle Cosse devient donc ministre du Logement. moment, comme Cécile Duflot à l'époque, et ça ne va pas être forcément facile pour elle de l'expliquer à ses troupes.
Oui, non, ses proches d'ailleurs l'ont exclue de facto cet après-midi lors d'un bureau extraordinaire d'Europe Écologie Les Verts, et elle-même vient d'adresser une lettre aux militants pour leur annoncer qu'elle quittait son poste de secrétaire nationale du parti. Alors, vous disiez ironie de l'histoire, c'est presque aussi de la provocation de la part de François Hollande, en effet, que de nommer Emmanuel Coss au poste exact de Cécile Duflot, celui qu'elle occupait il y a 3 ans. Cela clarifie la ligne, ironise un proche de Duflot, qui elle a choisi le silence pour tout commentaire. On sent bien l'amertume à tous les étages. Et ce départ se fait en effet dans la douleur, en interne, après des mois de ballotage au sein du parti. Imaginez que cet après-midi, 2 heures seulement avant l'annonce du remaniement, au moment même où François Hollande peaufinait donc ce recrutement dont il a le secret, Europe Écologie Les Verts assurait dans un communiqué ne pas avoir été contacté par l'Élysée. C'est ce qu'Emma Coss nous avait encore dit mardi, assure un porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, le parti qui disait aussi combien les conditions n'étaient pas réunies pour revenir dans un gouvernement socialiste. Mais pour ceux qui ont côtoyé Emmanuel Coss ces derniers mois, ce n'est pas si surprenant sa décision. La patronne des Verts ne cachait plus qu'elle en avait plus qu'assez des querelles internes de son parti et de l'immobilisme politique qu'elles ont généré, les résultats très mauvais des dernières élections en étant l'ultime preuve. Elle était courtisée depuis un moment déjà par l'exécutif, elle avait même envoyé quelques signaux, par exemple en critiquant les accords ELV Front de Gauche lors des régionales. Alors elle se dit ce soir heureuse de poursuivre son engagement pour une écologie dans l'action. Donc reste à savoir maintenant ce qu'elle a pu obtenir comme garantie pour devenir ministre, notamment sur des sujets sur lesquels elle était jusque-là en tout cas inflexible, Notre-Dame-des-Landes, je pense aussi à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, des sujets pour lesquels elle a souvent demandé à François Hollande de tenir ses promesses.
Merci beaucoup Christine Moncla, et puis donc Jean-Vincent Placé aussi, Barbara Pompili, deux écologistes qui voulaient entrer au gouvernement, font leur entrée. Le premier, Jean-Vincent Placé, chargé de la réforme de l'État et de la simplification, vous l'avez dit, et puis Barbara Pompili, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Environnement qu'elle connaît. Donc bien, ce sera auprès de Ségolène Royal. Quelques rares réactions pour l'instant, notamment Éric Ciotti, député Les Républicains, qui par Twitter parle d'une dernière tentative de rabibocher la gauche. François Hollande n'est déjà plus président, mais candidat, dit-il. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire ce soir sur la formation du nouveau gouvernement. Un peu éclipsé donc par la formation de ce gouvernement, le gouvernement Manuel Valls qui se trouve en ce moment même devant les médecins réunis par sa ministre de la Santé. Il s'agissait de renouer avec cette profession. Il a fait quelques annonces dont nous parlerons dans le journal de 22h ce soir. Mais en parallèle, eh bien, il y avait les médecins libéraux qui organisaient aujourd'hui leur propre journée de concertation. Ce sont les assises de la médecine libérale, une sorte de pied de nez quand même au gouvernement. L'objectif étant de proposer des solutions alternatives à la loi santé qui est portée par la ministre Marisol Touraine. La synthèse de leur travail sera dévoilée vendredi prochain, mais déjà quelques pistes ont été présentées, Willy Moreau.
Les 5 syndicats majoritaires de médecins libéraux main dans la main aujourd'hui pour travailler sur ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Autrement dit, promouvoir une médecine de proximité en réduisant la durée des hospitalisations. Pas question de se rendre à la conférence nationale sur la santé. Pour Jean-Paul Hamon, président de la Fondation des médecins de France, difficile d'accepter le vote de la loi santé en décembre dernier.
Le 13 novembre, alors que les médecins avaient fermé 80% de leurs cabinets médicaux et qui s'apprêtaient à faire un blocage historique sur la France entière, le 13 au soir, naturellement, on a arrêté notre mouvement. La réponse du gouvernement a été cinglante. Ils nous ont claqué la porte au nez en faisant voter cette loi en pleine période de deuil. La conférence nationale de santé, c'était clair qu'on n'allait pas y aller.
10 ateliers sont prévus toute la journée. Il y a entre 120 et 130 personnes en train d'élaborer des propositions. S'il y a encore des désaccords, certains points font consensus. Éric Henry, président du syndicat des médecins libéraux.
Nos médecins libéraux sont engorgés par l'administratif et les difficultés à gérer leur cabinet. Il faut qu'on redonne du temps médical aux médecins pour qu'ils se débarrassent de tous ces temps superflus qui l'empêchent de travailler. On s'engage à ce que les gens restent sur leur territoire et n'aillent pas consulter à 50 km alors qu'ils ont tout chez eux.
Ces sujets sont loin d'être anodins, il y a vraiment urgence selon Jean-Paul Hamon.
Il n'y a pas besoin d'aller courir bien loin pour avoir des déserts médicaux, il y en a partout. Tous les jeunes ne veulent pas s'installer, ils veulent une protection sociale digne de ce nom. Ils veulent travailler dans de bonnes conditions comme les médecins européens avec 2 secrétaires. Et on veut qu'en 2016, le gouvernement cesse de brasser de l'air et faire en sorte que les jeunes médecins aient envie de s'installer en libéral. Voilà ce qu'on veut.
Rien qu'à Paris, le nombre de médecins libéraux a chuté de 17% entre 2009 et 2015. Les syndicats syndicats appellent donc le Premier ministre Manuel Valls et la ministre de la Santé Marisol Touraine à donner davantage de moyens financiers à la médecine générale. Ils souhaitent les rencontrer dans 15 jours.
Willy Moreau, merci. Bastamag, qui est un site internet, et des journalistes de Rue 89 sont poursuivis pour diffamation par le groupe Bolloré. Il leur est reproché d'avoir, pour Bastamag, écrit un article sur l'accaparement des terres en Afrique, article dans lequel le journal citait plusieurs compagnies, dont Bolloré. Le groupe s'attaque donc aux journalistes qui ont tenté d'enquêter sur lui. Véronique Rebérode, vous suivez pour nous cette audience.
Oui, elle est loin d'être terminée. En tout cas, l'article incriminé est en fait un article de synthèse. Il s'appuie sur la production de rapports fouillés d'ONG, aussi des Nations Unies, pour montrer bien que des multinationales, et notamment le groupe Bolloré, à travers des filiales, des sous-filiales, eh bien, investissent massivement, spéculent sur les terres agricoles, devenues une valeur sûre après la crise de 2008. Alors, les rapports sont nombreux. Ils dénoncent la même chose, ce processus d'accaparement avec la complicité d'États qui dépossèdent en fait les agriculteurs locaux de leurs biens, petits agriculteurs camerounais, de Sierra Leone ou encore d'Asie, qui n'ont jamais les compensations économiques sociales promises en échange. Alors l'avocat du groupe Bolloré, Maître Baratelli, qui s'est très peu exprimé jusqu'à présent, donc groupe qui attaque en diffamation, a fait valoir que son client n'est pas majoritairement actionnaire dans les filiales incriminées comme la Socfin, qui est une holding luxembourgeoise et qui agit donc sur le terrain. Mais il y a surtout deux procès en un, celui de l'accaparement des terres et celui de la liberté d'expression. À la barre, eh bien, les prévenus qui se définissent aussi comme des lanceurs d'alerte expliquent que le systématisme du groupe Bolloré a porté plainte, sitôt qu'il est mis en cause dans un article. Faire sa promo, bien, pour les autolibres en France, c'est possible, explique Pierre Aski, donc de Rue 88, mais parler des affaires de Vincent Bolloré en Afrique, ce n'est pas possible, jusqu'à même que la presse française développe une sorte, disent-ils, d'autocensure. C'est ce que regrette Pierre Aski de Rue 89, d'autant que ceux qui sont appelés à la barre aujourd'hui et qui sont poursuivis tous pour diffamation, parfois ont fait que relayer la... Ils l'ont conseillé sur leur blog ou sur leur site. Ils ont conseillé de lire donc l'article incriminé. Et ça, c'est une première en France.
Merci beaucoup, Véronique Rebérode, avec quelques coupures. Donc, vous qui suivez ce procès pour nous. L'autre grand titre de l'actualité nous amène une nouvelle fois en Syrie où la situation des civils est catastrophique autour d'Alep en ce moment. L'ONU parle de 51 000 civils bloqués à la frontière nord, ne pouvant passer en Turquie pour échapper à l'offensive menée par le régime de Bachar al-Assad contre les quartiers rebelles. Offensive épaulée, on le sait, par la Russie dont les bombardements sont très meurtriers. 2 000 cibles atteintes en une semaine, dit Moscou. À Munich se retrouve aujourd'hui le groupe international d'aide à la Syrie, 17 pays dont les Russes, qui en ont profité pour faire une offre concrète de cessez-le-feu. Moscou est accusé d'alimenter pourtant le brasier syrien et d'avoir fait capoter les négociations qui étaient prévues à Genève. C'est comme si le Kremlin dictait maintenant le tempo d'une trêve. À Moscou, Marc Crépin.
La première déclaration venue de Russie ce matin n'a pas étonné les milieux qui suivent de près l'intervention russe en Syrie. L'intensification des frappes sur la ville d'Alep a produit les effets escomptés. La ville a été quasiment vidée de ses habitants et les forces de Bachar al-Assad encerclent la cité, exactement ce qu'on voulait à Moscou. Peu après, à Munich, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en appelant les États-Unis à suivre la Russie, propose tout simplement de faire approuver la stratégie du Kremlin. Cette trêve ne peut entrer en vigueur qu'aux conditions de la Russie, dont la principale, on le sait, reste de préserver le régime de Bachar al-Assad en attendant le retour d'une vraie négociation. Et pour lever toute ambiguïté, le ministre de la Défense a rendu public ce matin le dernier bilan statistique de l'opération en Syrie. L'aviation russe est sortie à 510 reprises depuis une semaine, depuis l'échec d'une réunion entre toutes les parties à Genève. Cette fois, l'absence de trêve pourrait à nouveau faire échouer toute négociation. C'est le message de Vladimir Poutine.
Voilà. Marc Crépin à Moscou. Alors, loin du jeu diplomatique, il y a la réalité de la guerre et de ses innombrables victimes. Un nouveau décompte macabre vient d'être fait par le Guardian à Londres. Le quotidien britannique évoque pour la première fois le chiffre d'un demi-million de morts. 500 000 victimes du conflit syrien. Nadine Epstein, bonsoir.
Bonsoir.
C'est une estimation presque deux fois supérieure aux données qui circulaient jusqu'à présent.
Et le Guardian explique s'appuyer sur le rapport de l'ONG Centre syrien pour la recherche politique qui estime que 5 ans de conflit ont fait 470 000 morts, 400 000 personnes tuées et 70 000 autres qui ont succombé au manque d'eau potable, de nourriture ou de médicaments. Le journal britannique ajoute qu'au total, 11,5% de la population ont été tués et blessés, et de noter aussi la forte chute de l'espérance de vie. Elle est passée de 70 ans en 2010 à 55,4 ans en 2015. D'autres chiffres rendent compte du chaos syrien. 45% des Syriens ont quitté leur maison, soit pour aller à l'étranger, environ 4 millions de personnes, soit pour trouver refuge à l'intérieur du pays, 6 millions de personnes. Les prix ont grimpé d'au moins 53% et près de 14 millions de Syriens ont perdu leur emploi, sans oublier l'eau courante coupée, la pénurie générale de carburant et d'électricité. Cette dramatique situation pourrait encore empirer puisque depuis 10 jours, une dizaine de jours, les bombardements et les attaques sans relâche ont obligé 50 000 civils à quitter la région d'Alep. Les frappes russes n'ont épargné ni les hôpitaux ni les écoles. L'armée d'Assad empêche toute aide extérieure et donc pour s'en sortir, la population n'a pas d'autre choix que de quitter la ville. Enfin, le Washington Post explique que cette nouvelle bataille sur les territoires syriens pourrait être à l'origine d'une nouvelle crise des réfugiés. Près de 35 000 personnes ont fui la région d'Alep et sont actuellement massées à la frontière syro-turque. Ankara affirme que depuis le début du conflit, 2,2 millions de réfugiés syriens ont gagné la Turquie.
Merci Nadine Epstein. Et en bref encore, l'OTAN dépêche une flotte en mer Égée pour lutter contre les passeurs qui font traverser des milliers de migrants. L'Alliance Atlantique répond à une demande notamment de l'Allemagne. Et puis à Bruxelles en ce moment, grande réunion de la coalition qui lutte contre l'État islamique. Les États-Unis vont demander à leurs alliés d'augmenter de façon substantielle la force de frappe contre Daesh. Les unes après les autres, les places boursières ont de nouveau décroché dans la foulée des bourses asiatiques avec des chutes de moins 3, moins 4% dans la zone euro. Le répit observé hier n'aura pas duré longtemps. Ce sont les valeurs bancaires qui essuient les plus forts reculs. Les banques sont effectivement au premier rang des établissements qui suscitent la méfiance en raison de leur exposition au secteur de l'énergie et en particulier du pétrole qui est en baisse. Bonsoir Jean-Marc Chardon.
Bonsoir Tara.
Et parmi les établissements les plus chahutés en ce moment, on compte la Deutsche Bank, la plus grande banque à allemande.
En effet, une chute rapide depuis le début de l'année, la Deutsche Bank a perdu 35% de sa valeur en bourse, plus du tiers. La plus grande banque allemande qui a touché le fond en atteignant son plus bas niveau depuis 1984. Alors ce qui se passe, c'est que la Deutsche Bank traverse une mauvaise passe due à une série de facteurs, des taux d'intérêt très faibles, pas rentables, les inquiétudes liées à la solvabilité des groupes pétroliers, c'est l'effet de la conjoncture avec ralentissement des affaires, mais pas seulement, le groupe est sous le feu de quelques 6000 litiges dans le monde dont l'un concerne des soupçons de manipulation de taux interbancaires, c'est quand même assez grave, et puis un autre des activités de blanchiment en Russie. Et c'est dans cet environnement que Deutsche Bank affiche une perte de plus de 6 milliards d'euros en 2015. Le groupe, il est atteint dans ses comptes, dans sa réputation aussi. Il trimballe trop de casseroles pour attirer la confiance, tellement que la direction a cru bon d'assurer que la banque était capable de rembourser ses dettes. Le type d'argument dont le seul énoncé a pour effet de semer le doute plutôt que la confiance. Dans l'immédiat, le fleuron bancaire allemand envisagerait un programme de rachat d'une partie de la dette. Mais par quel moyen ? Le groupe se flatte de disposer de très grosses réserves, d'importantes liquidités, plus de 200 milliards d'euros. De quoi rassurer au moins sur le court terme. Après, eh bien, il faudra passer aux actes.
Merci beaucoup Jean-Marc Chardon. Et puis le FMI, le Fonds monétaire international, annonce à l'instant que Christine Lagarde est la seule candidate à sa propre succession. La Française devrait donc rester à la tête du Fonds monétaire international pour un nouveau mandat. On va terminer avec cette découverte qu'on dit capitale pour les physiciens. Des chercheurs de l'observatoire LIGO aux États-Unis ont apparemment détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles. Ondes que Albert Einstein avait théorisées il y a une centaine d'années, au début du XXe siècle. Mais il n'y avait pour l'instant aucune confirmation physique, si l'on peut dire. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir Tara.
Ces ondes qu'on a réussi à traquer sont émises lors de phénomènes astrophysiques géants, violents, extrêmement violents. Elles devraient pouvoir nous aider à mieux entendre ce qui se passe dans l'univers. Et vous rentrez justement de la conférence de presse où les physiciens du CNRS vous ont tout expliqué.
Oui, ils ont surtout confirmé cette information qui avait fuité depuis quelques jours. Oui, au bout d'un siècle de tentatives infructueuses et beaucoup d'argent dépensé, on a bien réussi à capter une onde gravitationnelle. Ça s'est passé le 14 septembre 2015, à plus d'un milliard d'années-lumière de la Terre, dans une autre galaxie. Deux énormes trous noirs ont fusionné. Ce choc a provoqué une onde dans l'espace-temps. Pour vous donner une image, c'est comme si vous jetiez une pierre dans l'étang. Ça provoque des rides à la surface de l'eau, des rides qui s'amenuisent au fur et à mesure. C'est pour ça qu'arrivée sur Terre, eh bien, cette onde, on ne la ressent pas. La secousse est 1 milliard de fois plus petite que la taille d'un atome. Alors, comment les Américains ont fait pour la rendre concrète? Eh bien, c'est grâce donc à LIGO, une sorte d'amplificateur qui ressemble à deux longs tunnels de 4 km à l'intérieur des faisceaux lasers. À l'entrée, ces faisceaux sont parfaitement synchrones. À la sortie, normalement aussi, à moins qu'une onde passe par là. Et là, les déforme. Et c'est bien ce qui s'est passé ce 14 septembre.
Et c'est donc une prouesse scientifique américaine, Élodie.
Pas seulement, parce que nous aussi, nous avons un instrument comme LIGO. Il s'appelle Virgo. Il se trouve près de Pise. Des physiciens italiens et français y travaillent. Et après ce fameux 14 septembre, dans l'heure qui a suivi ce signal, les Américains les ont contactés. Tous ensemble, ils ont travaillé à vérifier les données, à observer les fameux trous noirs. Trous noirs qu'on va certainement beaucoup mieux comprendre grâce aux ondes gravitationnelles. On va pouvoir mesurer ce qui se passe à l'intérieur. Ça nous permettra aussi de remonter jusqu'au Big Bang, qui le premier a dû générer ces fameuses ondes.
Merci beaucoup, Élodie Forêt. Voilà, je vous rappelle la principale information de cette édition. Le nouveau gouvernement Valls et ses 38 ministres. Le retour de Jean-Marc Ayrault, qui devient ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Emmanuelle Cosse, la patronne des Verts, qui n'est plus patronne de son parti, devient ministre du Logement. Et puis Jean-Vincent Placé est nommé à la réforme de l'État, de même que Barbara Pompili, ancienne écologiste, qui sera chargée de la biodiversité et du climat auprès de Ségolène Royal. Le temps demain, justement, temps très perturbé, beaucoup de pluie qui fait son retour par l'ouest. Et l'estuaire de la Gironde sera toujours placé en vigilance orange. Au cru, nous dit Météo France, les températures seront des températures de saison entre -1 et 5 degrés le matin.